Silcast présente l'analyse longue, thème du jour, vie artificielle et calcul évolutionnaire, avec Elena et Clara. Bonne écoute. On a un petit cluster d'articles à Rexive aujourd'hui autour de la vie artificielle et du calcul évolutionnaire. Et je trouve que pris ensemble, ils racontent quelque chose d'assez cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire détecter, faire émerger ou faire apprendre de la vie ou du comportement adaptatif quand on confie ça à des modèles modernes? On va creuser trois papiers. Un sur la détection de vie par IA, un sur l'open-endedness dans des automates cellulaires neuronaux et un dernier sur la neuroévolution en ligne. La thèse transversale, si je devais la formuler, c'est que ces trois articles convergent sur une même tension. Les méthodes ML sont puissantes, localement, mais fragiles dès qu'on sort de la distribution d'entraînement ou qu'on les laisse tourner longtemps sans pression de diversité. Et ça a des implications très différentes selon qu'on parle d'astrobiologie ou d'agent de contrôle. Commençons par le plus provocateur, le papier « Can I detect life? Lessons from artificial life ». L'idée centrale, on entraîne des classifieurs ML à distinguer mélange moléculaire biotique versus abiotique. On s'extasie sur les performances et l'article montre qu'avec des échantillons de vie artificielle, donc des compositions qui ne sont pas vivantes au sens chimique terrestre, le modèle crie « vie » avec une confiance proche de 100%. C'est le problème classique d'out of distribution, mais transposé dans un contexte où le OOD n'est pas un cas pathologique rare, c'est précisément le cas d'usage. Un échantillon extraterrestre, par définition, n'est pas dans la distribution des échantillons terrestres d'entraînement. Et ce qui rend la démonstration élégante, c'est qu'ils utilisent la vie artificielle comme banc d'essai adversarial. Au lieu de dire « imaginons un échantillon martien », ils construisent in silico des mixtures qui ne peuvent pas être vivantes par construction. Et regardent ce que le classifieur en dit. C'est méthodologiquement plus propre qu'un argument purement théorique sur l'OOD. Ce qui me frappe, c'est l'asymétrie épistémique. Un faux négatif en détection de vie, on rate une découverte, mais on reste prudent. Un faux positif avec une confiance de 99%, on annonce la vie ailleurs sur la base d'un artefact de distribution. Et ces annonces sont quasi irréversibles dans l'imaginaire public. Le papier ne tue pas l'idée d'utiliser le ML pour ça, soyons honnêtes. Il dit que la calibration de l'incertitude, la détection d'OOD, doivent être au cœur du pipeline, pas un ajout. Et historiquement, la communauté astrobio est plutôt prudente. Mais les benchmarks publiés récemment, type Cleaves et collègues, sont présentés avec des scores d'accuracy qui font oublier ce point. Une intervalle de confiance honnête sur vie détectée devrait probablement inclure une probabilité non négligeable de le modèle hallucine sur un OOD. Je serais curieuse de voir si quelqu'un propose un protocole où la classification est conditionnée à un score de typicalité par rapport à la distribution d'entraînement. Passons au deuxième, PBTNCA, Evolving Many Worlds. Là, on est dans la quête de l'open-endedness, le graal de la life depuis Tiera et Avida. Le problème connu des neural cellular automata et en particulier des Petri dish NC différenciables, c'est qu'ils s'effondrent, soit équilibre figé, soit bruit sans structure. Très sensible aux hyperparamètres. Leur réponse, c'est du population-based training, avec un objectif composite, nouveauté comportementale historique plus diversité visuelle contemporaine. Donc on pénalise la monoculture et les états morts. C'est une instanciation assez directe de l'idée novelty search de Lehman et Stanley, mais appliquée à la méta-évolution d'automates différenciables. Et les phénomènes décrits sont assez jolis à lire. Des vagues périodiques coordonnées, du scattering type spore où des amas homogènes éjectent des clusters cellulaires pour coloniser de nouveaux territoires, des macrostructures fluides qui migrent en gardant des frontières stables avec un intérieur très actif. C'est la rhétorique habituelle de l'ALIF, Edge of Chaos, mais visuellement, c'est convaincant si on regarde les figures. Je veux quand même être prudente. Open-ended est un mot que la communauté utilise généreusement. Stanley et d'autres ont proposé des critères opérationnels, du genre « Est-ce que la complexité continue de croître sur des horizons arbitrairement longs ? Est-ce que de nouvelles classes comportementales apparaissent au-delà de la fenêtre d'entraînement ?»
Le papier parle d'horizons étendus, mais ne donne pas, d'après ce que je lis, une métrique d'innovation continue à la Arte ou à la Soros Stanley. C'est plutôt « on observe une plus grande diversité de comportements que les baselines », ce qui est un progrès. Mais pas la même chose qu'établir l'open-endedness au sens fort.
Et il y a un point méthodologique intéressant. La diversité visuelle contemporaine comme objectif. Si tu récompenses ce qui est visuellement divers, tu biaises
vers ce que l'observateur humain trouve intéressant. C'est utile pour ne pas s'effondrer, mais ça veut dire que l'open-endedness ici est partiellement définie par l'œil humain via la métrique. Ce qui ramène au débat ancien, est-ce que l'open-endedness biologique a un objectif du tout ou est-ce qu'elle émerge de contraintes physiques et écologiques sans fonction de fitness explicite? Ici, la fitness est explicite et anthropocentrée, même si elle est minimaliste. Et pour moi, le résultat utile, c'est si tu veux éviter le collapse des NCA différenciables, le PBT avec Novelty marche. C'est un papier d'ingénierie Alife, pas une preuve de principe sur l'open-endedness. Et c'est très bien comme ça. Troisième papier, le plus technique. Probably Sublinear Two-Time-Scale Neuroevolution with Online Plasticity. Ils prennent Nate, l'algo de Stanley et Mikulainen, pour évoluer topologie et poids de réseau. Et note que chercher les poids directement dans des espaces aux dimensions scale mal sur le contrôle continu. Leur framework, NEOL, découpe en deux échelles de temps. Une boucle externe évolutionnaire pour la topologie, une boucle interne d'adaptation des poids en ligne via plasticité modulée par la récompense. C'est une vieille idée, Baldwin Effect, hybride évolution-apprentissage, mais il donne une analyse de regret. Et c'est ça qui est nouveau et qui mérite qu'on s'arrête. Le regret sublinéaire sous conditions douces, c'est une garantie théorique que ce type d'hybride n'avait pas vraiment à ma connaissance. La littérature neuroévolution est très empirique, très ça marche sur tel benchmark. Il faut être précis sur ce que sublinéaire veut dire ici. Le regret cumulatif croît moins vite que le nombre d'interactions, donc en moyenne par step, le modèle converge vers l'optimum. Ce n'est pas une borne de sample complexity au sens RL classique, mais c'est suffisant pour dire que la méthode n'est pas pathologique. Empiriquement, sur 4 benchmarks de contrôle standard à budget fixé, NEOL bat Nate Pure en fitness finale et en variance, et reste compétitif avec des baseline RL solides, avec Wilcoxon, Rongsum et ablation, ce qui est plutôt rigoureux pour le domaine. Et compétitif avec RL, pas supérieur. Ce qui veut dire que pour la plupart des applications pratiques, PPO ou SAC restera probablement le premier choix. Mais le créneau intéressant, c'est quand tu veux coévoluer la topologie, par exemple en robotique évolutionnaire ou en recherche d'architecture pour des problèmes où l'inductif bias n'est pas connu. Et c'est là que le papier rejoint nos deux autres. Si tu veux des agents qui s'adaptent sur des distributions inconnues, du contrôle où tu ne sais pas a priori la bonne architecture, la combinaison évolution-plasticité a un sens biologique fort, ce qui rapproche de l'ALIF au sens propre. Pour synthétiser, je vois 3 leçons. 1. Le ML moderne échoue silencieusement hors distribution, et l'ALIF est paradoxalement un excellent outil pour tester cette fragilité, voire le papier de détection de vie. 2. Faire émerger de la complexité durable demande une pression évolutionnaire explicite contre la monoculture, pas juste du gradient. Et 3. Les hybrides évolution-apprentissage, longtemps considérés comme du folklore biologique, comme TIS, Avodegarang théorique. Là où je nuancerais, c'est sur la rhétorique Edge of Chaos et Lifelike Phenomena. Ces termes ont une longue histoire dans la life depuis Langton et ils sont rarement opérationnalisés. Quand je lis Spore-like Scattering, je vois quelque chose de joli, mais la distance entre joli et vie est immense. D'accord. Et le fil rouge épistémique, pour moi, c'est que ces 3 papiers sont honnêtes sur leurs limites. Le premier ne dit pas « le ML est inutile pour détecter la vie », il dit « voici son mode d'échec ». Le deuxième ne prétend pas résoudre l'open-endedness, il propose un mécanisme contre le collapse. Le troisième borne ce qu'il prouve. C'est une bonne semaine pour CS Panneux.
Et ça contraste assez nettement avec une partie de la littérature ML mainstream où les claims sont souvent au-delà de ce que les expériences supportent. Peut-être que la marginalité relative de ce sous-champ aide à garder un niveau de prudence méthodologique plus élevé.
Ou alors les reviewers de CS Point lisent les abstracts en entier. Hypothèse à tester.
And restrain or read, point.